VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington, vendredi 9 novembre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, triple attentat à la voiture piégée à Mogadiscio en Somalie, on compte environ 20 morts. Au Tchad, le président Idriss Déby a nommé deux nouveaux ministres à la sécurité et à la défense. Au Mali, des terroristes appellent les Peuls au djihad contre la France. Et puis l'opposition congolaise à Genève pour choisir un candidat. Candidat unique. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Attentat à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Au moins 25 personnes ont été tuées dans l'explosion de trois voitures piégées. Une attaque s'est produite près d'hôtels fréquentés par des responsables politiques. Une autre près d'un siège de la police et la troisième près d'un carrefour très fréquenté. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chababs ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours une vaste zone rurale d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale somalienne. Contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Remaniement ministériel au Tchad, le président Idriss Déby a nommé deux nouveaux ministres à la sécurité et à la défense. On fait le point avec Raïssa Girondin.
C'est un remaniement qui porte à 31 les membres du gouvernement tchadien contre 29 dans la précédente équipe. Il est marqué par le départ de quelques caciques, tels que l'ancien ministre de la Défense, Issa Djadala, qui laisse sa place au général Daoud Yahia, ambassadeur du Tchad en Centrafrique depuis 2016, et du départ de Youssouf Abbasala, qui était en charge du commerce et des mines. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité depuis 2014, Hamat Mahamat Bachir devient ministre du Commerce. Il est remplacé par Mahamat Abba Ali Salah, précédemment gouverneur de la région du lac Tchad. Une autre nouveauté, c'est que l'ancien directeur général de la presse présidentielle, Oumar Yahia, devient ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Les autres membres du gouvernement ont gardé leur portefeuille ou ont été permutés.
Au Mali, des djihadistes ont publié une série de vidéos dans lesquelles Amadou Koufa, présenté comme émir de la région de Massina, appelle les Peuls de la sous-région au djihad contre la France et les Occidentaux. Notre correspondant au Mali, Kassim Traoré, nous en dit plus.
Ce sont des petites vidéos de 30 à 45 secondes montrant d'abord Amadou Koufa tout de blanc vêtu, bonnet tricolore avec une barbelette. Il le présente seul entre ses hommes, puis dans une voiture, ensuite assis au milieu de Iyad Agali et Abou Al-Humam. Koufa appelle les peuples du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, Niger, Ghana, Nigeria et Cameroun au djihad, avec focalisation et accusation de la France et les Occidentaux. À travers les séries de vidéos, on dirait une intronisation de Amadou Koufa, commandant du front de Massina, qui intègre Jamaat al-Nourin islamique de Iyad Agali. Koufa s'exprime en adressant des griefs locaux aux Occidentaux, plus particulièrement à la France, qui, à travers l'opération Barkhane, travaille au Mali. Et c'est d'ailleurs sa première apparition vidéo où il appelle ouvertement et nommément des peuples au djihad sous la bannière de Al-Qaïda contre la France. On remarque qu'Iyad Agali et Abou al-Humam, qui ne s'expriment pas, ont réussi à se réunir avec Koufa malgré la pression des militaires au Sahel. La vidéo se termine par un speech en langue peule où Koufa, dans un refrain, parle de mécréants et de combat contre les Occidentaux. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, le gouvernement a confirmé la tenue des législatives le 20 décembre prochain, contrairement aux souhaits de l'opposition, mais conformément aux recommandations des chefs d'État de la région, médiateurs dans cette crise entre le président fort Gnassingbé et ses adversaires qui réclament sa démission. Le recensement électoral tel que recommandé par la CEDEAO étant terminé, le corps électoral est à présent connu et peut donc être convoqué, expliquent les autorités togolaises. La coalition de 14 partis politiques à l'origine des manifestations qui secouent le pays depuis plus d'un an dénonce des irrégularités dans l'organisation du scrutin et conteste la composition de la commission électorale. Elle dit également craindre des fraudes. La coalition avait appelé la population à boycotter le recensement électoral. 5 des 7 ténors de l'opposition congolaise sont arrivés à Genève pour tenter de désigner un candidat unique à la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Le point avec Nani Talani.
L'opposition désignera son candidat unique au plus tard dimanche. Son choix portera sur l'un des quatre candidats, Freddy Matungulu, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Martin Fayulu. Les attentes sont fortes auprès de la population. Comme groupe, nous ne pourrons prétendre à la victoire à la présidentielle qu'en étant ensemble, a déclaré M. Matungulu. Le 26 octobre en Afrique du Sud, les sept ténors de l'opposition avaient promis de désigner ce candidat au plus tard le 15 novembre. Moïse Katumbi, opposant en exil, et Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président, n'ont pas été autorisés à participer, mais ils seront présents à la réunion de Genève, selon Adolphe Muzito, ancien premier ministre passé à l'opposition, exclu de la course à la présidence. Il y a 21 candidats à la succession du président Joseph Kabila dans un scrutin à un seul tour.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annoncé la nomination de Peter Pham comme émissaire pour l'Afrique des Grands Lacs. Il était jusque-là vice-président du cercle de réflexion Atlantic Council à Washington. Il sera chargé de coordonner la politique américaine dans la région des Grands Lacs. Il veillera aussi au retour volontaire des réfugiés et déplacés internes, notamment en République démocratique du Congo et au Burundi. Peter Pham remplace Larry Hollers, coordinateur pour les Grands Lacs. En RDC, les Nations Unies appellent les groupes armés à ne pas entraver les efforts de lutte contre la maladie à virus Ebola qui touche l'est du pays depuis août. La 10e épidémie d'Ebola s'est déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu. L'épicentre de l'épidémie s'est rapidement déplacé vers Beni, repère des rebelles ougandais, des forces démocratiques alliées et de nombreux autres groupes armés locaux. Les opérations d'aide médicale contre Ebola ont à plusieurs reprises été perturbées par des attaques armées qui ont fait des dizaines de morts à Beni et ses environs depuis. Le virus ne fera pas de différence entre ceux qui font partie des ADF et ceux qui n'en font pas partie, a déclaré le secrétaire général adjoint aux Nations Unies pour le maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. À Madagascar, les observateurs appellent les candidats à la présidentielle, à la modération et à utiliser uniquement les voies légales pour contester les résultats. Un appel qui fait suite aux accusations d'irrégularité formulées par deux candidats. Abdourahmane Dia.
Ce vendredi, le comptage des voix se poursuivait au compte-gouttes dans la grande île, selon les résultats qui ne portent que sur 1350 des quelques 25 000 bureaux de vote. La course se joue entre deux anciens présidents, Ange Rajoel et Marc Ravalomanan. R. Rajonarimampian, un autre ex-chef d'État, est très loin derrière. Hier, il a dénoncé de nombreuses irrégularités et a indiqué qu'il les transmettrait à la CENI. Cependant, il a prévenu qu'il ne laisserait pas la population se voir dérober son vote. De son côté, Marc Ravalomanan a appelé à un rassemblement de ses partisans demain à Antananarivo pour les remercier de leur soutien. Il a affirmé que ce rassemblement doit aussi être l'occasion de recenser des irrégularités et de faire l'inventaire des électeurs qui ont été omis des listes électorales. De quoi soulever des inquiétudes à Madagascar. Le pays est régulièrement déstabilisé par des crises politiques et post-électorales depuis son indépendance en 1960.
Liberia, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et des ONG appelle les autorités à juger les auteurs de crimes commis pendant la guerre civile qui a ravagé le pays de 89 à 2003. 15 ans après la fin de ce conflit particulièrement atroce qui a fait quelque 250 000 morts, un très grand nombre de personnalités directement impliquées dans la guerre civile occupent toujours des positions importantes dans les sphères du pouvoir politique et économique. Gabon, le journal L'Aube a été suspendu pour 3 mois par la Haute Autorité de la Communication, mesure qui intervient suite à la publication lundi d'un article sur la santé du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis plus de 2 semaines.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La doyenne de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, 85 ans, est rentrée chez elle après avoir été hospitalisée pour des côtes fracturées. La magistrate progressiste de la Cour suprême avait chuté mercredi, se fracturant 3 côtes. Les démocrates redoutent une défaillance de Ruth Bader Ginsburg, car si elle venait à partir, le président Donald Trump la remplacerait par un juge conservateur. Le gouvernement de Donald Trump a annoncé vouloir interdire aux migrants entrés illégalement également sur le territoire américain de ne pas déposer une demande d'asile. Et c'est la dernière décision du président pour lutter contre l'immigration dont il a fait son cheval de bataille. Par ailleurs, le président Donald Trump est attendu en France ce week-end avec des dizaines d'autres chefs d'État pour assister aux cérémonies marquant le centenaire de l'armistice et qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. 5 stèles seront inaugurées demain en France à la mémoire de 949 tirailleurs sénégalais morts pour la France à la suite de maladies après avoir séjourné dans un camp d'hiver dans le sud-ouest du pays pendant la Première Guerre mondiale. Selon les historiens, ces installations auraient accueilli de 1916 à 1917 entre 40 000 et 60 000 tirailleurs sénégalais placés sous l'autorité de l'armée française et originaires de toute l'Afrique occidentale. Au Yémen, les combats des dernières 24 heures à Hodeïda ont fait 110 morts parmi les rebelles houthis qui contrôlent cette ville stratégique de l'ouest du pays et tué 22 commandants des forces loyalistes. Hodeïda est sous contrôle des rebelles depuis 2014 et les forces fidèles au président Abrabo Mansour Hadi, appuyées militairement par les alliés saoudiens et émiratis, tentent de la reconquérir depuis juin. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée aujourd'hui par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire bénéficie d'un prêt de 42 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour améliorer l'accès à l'électricité en milieu rural. Le projet, dont l'exécution va durer 3 ans, de 2019 à 2021, porte sur l'extension des réseaux électriques en moyenne tension et la réalisation de branchements dans 3 districts du Nord où le taux d'accès à l'électricité est inférieur à la moyenne nationale estimée à 60%. Il s'agit des districts des Savanes, du Yoruba et du Zonzon pour une population estimée à 259 486 habitants. Le Zimbabwe veut réduire son déficit budgétaire à 4% du produit intérieur brut. Pour ce faire, Harare compte réduire les dépenses de l'État, les primes annuelles versées aux agents de la fonction publique, les voyages à l'étranger des hauts cadres. Le gouvernement envisage également de vendre une partie de ses actions détenues dans des entreprises bancaires, minières et de télécommunications. Et puis au Cameroun, l'Agence française de développement vient d'accorder un prêt de 150 millions d'euros à Natigal Hydropower Company pour la construction de la centrale hydroélectrique de 400 MW. Elle permettra de fournir près de 30% de la production d'électricité du pays. Le projet comprend la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance pendant 35 ans d'un barrage.
Et on enchaîne sur les sports avec Bagassi Kora. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgan.
En football, match retour ce soir de la finale de la Ligue des champions de la CAF.
Oui, battu par Al Ahly lors de la finale aller 3-1, l'Espérance Tunis va tenter ce vendredi à Rades de remporter la Ligue des champions. Les espérantistes pourront compter ce soir sur un stade de Rades qui sera tout acquis à leur cause. Mais Al Ahly, détenteur du record de victoire dans la compétition, cherche à ajouter une 9e C1 à sa vitrine des trophées, d'autant que le dernier remonte déjà à 2013. L'Espérance est, elle, en quête d'une 3e Ligue des champions après l'avoir remporté en 1994 et 2011.
Football toujours, cette fois en France, le PSG a-t-il pratiqué la discrimination ethnique ?
Oui, c'est en tout cas ce que révèlent Mediapart et plusieurs médias européens, s'appuyant sur des documents issus de la 2e vague de ce qu'on appelle le Football Leaks de 2013 au printemps 2018. Une cellule de recrutement du Paris Saint-Germain a mentionné des critères ethniques dans ses fiches d'évaluation de jeunes joueurs.
En NBA, Golden State a passé une bien mauvaise soirée jeudi.
Oui, le double champion NBA en titre, surclassé par Milwaukee 134 à 111, a concédé sa première défaite à domicile de la saison et a vu son meneur de jeu, Stephen Curry, quitter prématurément ses coéquipiers sur blessure. Les Warriors sont donc tombés de haut. Alors qu'ils avaient remporté leurs 8 précédents matchs, ils n'ont soutenu la comparaison avec le box que pendant la première moitié de la rencontre.
Merci Bagassi.
Merci Morgana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. L'opposition togolaise ne participera pas aux élections législatives prévues le 20 décembre. Selon son leader Jean-Pierre Fabre, la CDAO veut se servir de la tenue du scrutin pour résoudre la crise politique qui secoue le pays. Mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection crédible et transparente, explique Jean-Pierre Fabre, qui réagit ici à l'annonce du gouvernement togolais au micro de Irénée Herman Umbo.
Je crois que le gouvernement est dans une logique de provocation parce qu'il sait très bien que les élections normales, crédibles, transparentes, démocratiques, ne peuvent pas avoir lieu là, maintenant, le 20 décembre. Je ne comprends pas comment on peut convoquer le corps électoral alors que le fichier actuel dont nous contestons la mise en place, parce que nous n'avons pas été associés à l'opération, que ce fichier-là, il n'est même pas encore dépouillé de tous les doublons, de tous les problèmes, il est en train d'être audité. Le fichier n'est pas encore mis en place.
Monsieur Fabre, ce sont les médiateurs, les États de la sous-région qui ont suggéré à ce que les élections se tiennent en décembre.
Ces chefs d'État qui ont suggéré cette date, ils organisent des élections chez eux. Ils savent très bien que si on veut organiser des élections libres, transparentes, équitables, démocratiques, crédibles, on exécute d'abord les tâches nécessaires.
L'opposition que vous représentez n'a pas voulu siéger à la commission électorale. Est-ce que la politique de la chaise vide paye-t-elle dans ce cas précis ?
Il ne faut pas dire les choses, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Nous avons fourni notre liste dans les délais. Et on a attendu 5 semaines parce qu'il y avait un blocage qui était dû au fait qu'un parti politique qui a signé un accord de partage de pouvoir avec le régime en place, et revendique une place, alors qu'il ne fait pas partie du dialogue.
Alors, allez-vous participer au scrutin ou
non, pas du tout. On ne participe pas à des élections parce qu'il y a une date qui est fixée. Ça n'a aucun sens.
Quelles seront alors vos conditions pour participer au scrutin ?
Il faut que tout soit clair. Parce que, excusez-moi, monsieur, mais nous ne sommes pas dans le cadre d'élections ordinaires. Il s'agit d'une élection dont la CDAO veut user pour régler la crise togolaise.
Ne craignez-vous pas que les absents pourraient avoir tort ici éventuellement ?
C'est ce qu'on nous a toujours dit depuis des années, depuis des décennies. Et c'est pour ça que nous participons à des élections qui n'en valent pas la peine. Je pense que si nous disons qu'il y a des conditions à régler pour que nous puissions participer à ces élections, il faut qu'au moins pour une fois, on nous écoute.
Voilà, c'était Jean-Pierre Fabre, joint à Lomé par Irénée Herman Umbo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
À Bukavu, en République démocratique du Congo, les participants au forum interprovincial devant produire un projet de document sur la politique foncière nationale viennent d'opter pour la révision de la loi foncière de juillet 1973 en vue d'améliorer la réglementation foncière. Le point avec notre correspondant sur place, Ernest Mouhero.
Pendant 4 jours, plus de 250 délégués venus de 26 provinces de la RDC ont réfléchi sur les forces et faiblesses de la loi foncière de 1973. C'était avant de relever les problèmes fonciers majeurs qui découlent de sa mise en application sur l'ensemble des territoires congolais. Guy Mouléa vient de Lubumbashi, où il est conseiller du ministre des Mines et Affaires foncières dans la province du Haut-Katanga.
Il fallait un diagnostic de l'administration foncière. Au Katanga, par exemple, nous avons un grand problème avec la superposition des les titres miniers sur les titres fonciers.
D'autres problèmes sont aussi vécus à Kinshasa, rapporte Maître André-Marie Kito de la Société civile de Kinshasa.
Il y a des services fonciers qui sont à Kinshasa et qui attribuent des portions de terre à 2, 3 ou 4 personnes à la fois. Et vous allez retrouver 4 personnes, chacune avec un contrat.
Venancy Bissimois du Sud Kivu déplore l'accaparement des terres par le plus nanti.
Nous sommes là avec une élite qui a pris la terre et qui ne l'exploite pas, à côté des paysans qui n'ont même pas un hectare pour vivre. Les terres de milieu rural, ce sont plus les terres qui posent problème parce qu'ils sont sous le régime coutumier. En même temps, on les soumet à un régime des droits.
Pour le ministre national des Affaires foncières, Lumea Dumalegi, ce forum a permis de lever des options fondamentales en vue d'améliorer la gouvernance foncière.
Nous ne voulons pas qu'un opérateur économique arrive, il chasse la population locale qui ne se retrouve pas et ça amène les conflits. Nous avons aussi planché sur comment le foncier va jouer un rôle capital dans le renflouement des caisses de l'État.
Le délégué de la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs, le professeur Moïse Tufende, salue l'option prise en ce qui concerne la révision de la politique des règlements des litiges fonciers.
Parmi les mesures prises, il sera créé une inspection foncière. Avant d'amener un litige devant les cours et tribunaux, les parties prenantes en litige seront obligées de passer d'abord par l'inspection foncière avant de soumettre leur litige devant les cours et tribunaux. Il y a aussi des innovations, par exemple le renforcement du genre dans l'octroi des titres fonciers.
Le chef coutumier et peuples autochtones se disent satisfaits. Sa Majesté Mfumo Difima est secrétaire général des autorités traditionnelles du Congo.
Ce forum vient de nous donner une occasion, une fois pour toutes, de certifier et cartographier nos terres, qu'il n'y ait plus de sang dans ce pays pour des problèmes de terre.
Reste à savoir si la volonté politique va suivre. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a annoncé la fermeture de la chasse pour permettre aux animaux de se reproduire pendant les 6 mois prochains. Mais les communautés forestières, notamment les populations autochtones ou les pygmées, estiment qu'elles ne pourraient pas survivre sans viande de brousse. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
La chasse est fermée. Les populations autochtones de Sembe et de Kabo, localité de la Songa au nord du pays, pensent que la loi dessert leurs intérêts car elles ne savent pas pratiquer l'élevage et ne font pas l'agriculture.
6 mois, non, on ne peut pas supporter 6 mois sans chasser. Parce qu'on vit par rapport à la viande, comme la gazelle, le ngandi. C'est tout ce que nous aimons ici à Sembe. Il faut qu'on nous donne un peu le temps de chasser pour qu'on doit vivre aussi. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça sans vivre. Bon, l'élevage, puisque les pygmées, les autochtones, ils ne sont pas là, ils ne sont pas habitués à manger des poulets et des moutons.
Donc c'est très difficile pour nous, les autochtones de Sembe. Ça, on est obligé d'aller chasser en forêt parce que ça c'est la base. Malgré que la loi est là, bon, on force toujours à chercher de quoi manger. C'est un peu ça.
Un autochtone du village, attention, Jacob Zalagué, stigmatise même les abus des cogardes en cette période de fermeture de chasse.
On interdit la chasse à la gens des cogardes. Si tu es allé au forêt, tu fais la chasse. Si tu as trouvé même 2 antilopes rouges ou 2 même... 2 gazelles ou 3 gazelles, même 3 porte-piques. Dès que tu vas croiser avec eux, ils ont arrêté. Tout, ils ont ravi de ça, ils rentrent avec. Si tu avais malchance, on va prendre avec armes. Mais les armes, elles n'aiment pas pour nous. Nous louons armes ici à une journée à 2000.
La société civile plaide pour que les populations autochtones qui habitent les forêts continuent à se nourrir de la viande de brousse, conformément aux droits d'usage. Sylvie Mfutubanga, présidente d'une plateforme sur la gouvernance forestière.
Il y a toujours des abus des éco-gardes parce que nous travaillons avec les communautés, notamment je peux prendre l'exemple des communautés de Kapo. Dans le département de la Sanga, ces communautés se plaignent que les éco-gardes vont jusque dans les maisons pour aller ravir la viande des communautés.
Le gouvernement appelle tous ceux qui pratiquent la chasse à respecter cette période de fermeture. Roger Albert Mété, conseiller à la faune et aux aires protégées au ministère de l'économie forestière.
Pendant cette période, la réglementation en vigueur prévoit également pour nos communautés riveraines les droits d'usage traditionnels liés à la subsistance, à l'autoconsommation. Si, par exemple, l'usage ou la détention de ces fusils n'est pas conforme à la loi, c'est normal. Par exemple, pendant cette période, il y a aussi quelques techniques de chasse qui sont acceptées. Par exemple, des filets, les pièges à base des câbles métalliques, ça c'est une technique qui est prohibée.
La reprise de la chasse est fixée au 1er mai 2019. Du retour de Sémé dans la Sangha, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le président Donald Trump va ce week-end en France avec des dizaines d'autres chefs d'État pour assister aux cérémonies marquant le centenaire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Les relations entre les États-Unis et ses alliés sont assez tendues et la France a prévenu que le climat géopolitique actuel rappelle la situation entre les deux guerres. Un reportage d'Henry Ridgewell, le récit est de Gaby Dorsil.
En faisant le tour des champs de bataille cette semaine, le président français Emmanuel Macron a prévenu sur les menaces qui pèsent sur l'Europe, qui, selon lui, doit créer sa propre armée.
Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique.
Pour les autorités françaises, les relations avec les États-Unis ne seront pas affectées par les résultats des élections de mi-mandat où les Républicains ont perdu le contrôle de la Chambre des représentants. Le président américain sera reçu demain samedi par son homologue français et on ne sait toujours pas si M. Trump va rencontrer Vladimir Poutine, son homologue russe, en marge des cérémonies. Un peu plus tard, M. Trump visitera le Bois Belleau, qui a été le théâtre de l'une des batailles les plus féroces menées par les troupes américaines durant la Première Guerre. Les violents combats se sont déroulés au corps à corps et après trois semaines, les troupes américaines ont conquis le Bois Belleau le 26 juillet 1918. Jean-Michel Steg, historien.
Ils étaient confrontés à un intense feu ennemi, mais au lieu de se cacher, au lieu de battre en retraite comme c'était l'habitude des troupes à l'époque, attendant les barrages d'artillerie pour les soulager, ils ont attaqué.
À la fin de la guerre, 116 000 soldats américains sont tombés en défendant l'Europe. Un siècle plus tard, les relations transatlantiques sont tendues, mais l'Alliance a survécu. Bruce Malone Jr., directeur du musée Argonne, un cimetière militaire américain.
Les relations entre ces puissances n'ont pas été toujours faciles. Il y a des raisons pour cela. Mais lorsque vous venez ici, où les habitants de ces villages se souviennent encore, il y a un très grand respect pour le soldat américain.
Le musée Romagne 1418, juste à côté, dépeint la vie des soldats sur la ligne de front avec des milliers d'objets retrouvés sur les champs de bataille. Jean-Paul De Vries, conservateur du musée Romagne 1418. Il dit que ce qu'il essaie de montrer aux visiteurs de ce musée, si l'on voit ces casques, c'est la même chose, c'est toujours des vies humaines. 40 millions de personnes sont mortes durant ce conflit. Elles seront commémorées dimanche, le jour de l'armistice, pendant une cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris, avec des dizaines de leaders du monde. Puis le président Trump va participer à une cérémonie séparée dans un cimetière américain.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Michel Joseph, à la présentation Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.